Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 15. Ainsi, dans les 8 années de sa vie, la panthère embrassait-elle une existence totale, le corps pour la joie, les rêves pour la gloire. Les bêtes occupent leur juste place sans dépasser les parapets institués par les tâtonnements de l'évolution, puissance d'équilibre. Chacune constitue un élément de la machinerie de l'ordre et de la beauté. La bête est un joyau serti dans la couronne, dû le diadème se laver de sang. La morale n'est pas invitée dans ses ordonnancements, ni la cruauté dans les dévorations. La morale était cette invention de l'homme qui avait quelque chose à se reprocher. La vie ressemblait à une partie de Mikado, et l'homme s'avérait brutal pour ce jeu délicat. Il avait débarqué avec une violence pas toujours nécessaire à la survie de sa race et, par surcroît, sortant des cadres légaux par lui-même institués. Les bêtes de notre vallon et celles du monde, connues, vivaient par-delà le bien et le mal. Elles n'étanchaient pas une soif d'orgueil ou de pouvoir. Leur violence n'était pas la rage, leur chasse n'était pas des rafles. La mort n'était qu'un repas. J'ai repéré une grotte à 200 mètres en haut de la piste. On va y bivouaquer. Elle ouvre sur le versant oriental. On sera à la meilleure place. Ainsi, Munier nous avait-il réveillés ce matin-là, une semaine après notre arrivée. Il gelait dans le baraquement. Léo alluma le poêle et nous préparâmes le thé, puis les paquetages. Le premier pour nous réveiller, les seconds pour survivre à la nuit. Nous emportions le matériel photographique, les lunettes d'observation, les sacs de couchage pour moins 30 degrés, des vivres et mon exemplaire du Tao Te King. On restera 2 jours et 2 nuits là-haut. Si elle passe, la grotte offre un balcon parfait. Nous montâmes par un talweg perpendiculaire au canyon. Il fallut du temps pour gagner les escarpements dans l'air gris. « Il y a une masse sombre là, » dit Marie. Le yak agonisait. Couché sur le flanc gauche, il haletait et la vapeur cotonnait ses naseaux. Il allait mourir au fond de ce couloir. Fini les courses dans le soleil joyeux. Les crocs de la panthère lui avaient percé l'encolure. Le sang coulait sur la neige. La bête tremblait. Ainsi chassent les panthères. sautant sur le garrot de leur proie et ne lâchant pas prise. La bête attaquée s'enfuit en pleine pente, le prédateur à sa gorge, et la course se solde par une chute des deux animaux, chasseur et proie. Ils roulent sur le versant, tombent dans les escarpements, s'écrasent sur les rocs. Il arrive que les fauves se brisent l'échine dans ces parties. Ceux qui réchappent au choc boiteront toute leur vie. Les nomades scythes avaient représenté sur leur fibule d'or le motif du léopard sur le garrot. Les dessins figuraient le tourbillon de muscles et de fourrures mêlées, la danse de l'attaque et de la fuite qui est la plus commune conséquence de la rencontre entre deux êtres. La panthère nous avait entendus. Sans doute nous observait-elle, cachée dans les rocailles, inquiète que des bipèdes, race honnie entre toutes, puisse lui ravir sa proie. Elle se méprenait car les intentions de Munier étaient plus sophistiquées que de voler la pitance d'un carnassier. Le yak était mort. « On va le déplacer de 10 mètres au fond du ravin, dans l'axe de la grotte, » dit Munier. « Si la panthère revient, on sera avec elle. » Au soir venu, nous étions en position, le yak couché sur l'herbe et nous, installé dans un système de grottes superposées. Un duplex, avait dit Léo, en découvrant les cavités creusées l'une au-dessus de l'autre, séparées par un ressaut de 30 mètres. Marie et Munier occupaient la grotte du bas, la suite impériale. J'étais avec Léo dans celle du haut, la dépendance. Le yak gisait à 100 mètres en contrebas. Le cellier du domaine. À demain pour un 16e extrait.